Bienvenue à notre émission hebdomadaire sur les saints, ses témoins, ses fous admirables. Ici Jacques Gauthier. Aujourd'hui, un saint très humain, François de Sales. Je pense qu'elle le définit très bien. Vous allez voir, c'est un saint très humain. Le 24 janvier 2001, Jean-Paul II parlait de François de Sales en ces termes. Anticipant sur le Concile Vatican II, François de Sales a indiqué la voie de la sainteté comme un appel adressé à tout état de vie. Alors c'est beau, parce que c'est bien avant le Concile, hein? Le Concile nous a rappelé, Vatican II, que tous nous sommes appelés à la sainteté. Bien, François de Sales a beaucoup mis l'accent justement sur cet appel universel à la sainteté. Et cet appel adressé à tout état de vie est vraiment au centre des écrits de François de Sales. Puis Jean-Paul II lançait cette invitation aux jeunes mariés le 24 janvier 2001. Le 24 janvier, parce que c'est la fête liturgique de saint François de Sales. Donc Jean-Paul II en profitait pour justement dire un mot sur François de Sales. Puis il lançait cette invitation aux jeunes mariés. En suivant les enseignements de saint François de Sales, sachez construire chaque jour votre adhésion à l'Évangile dans votre fidélité réciproque à l'amour. Ces paroles du pape mettent en évidence trois grandes caractéristiques de la spiritualité de François de Sales. Ces trois grandes caractéristiques sont les suivantes: la sainteté accessible à tous, l'Évangile comme règle de vie et l'amour comme unique méthode. Donc, c'est très simple. Tous, nous sommes appelés à la sainteté. Quelle est notre règle de vie? L'Évangile. Et quelle méthode nous allons utiliser? Bien, l'amour. Donc, il n'est pas nécessaire de vivre dans un cloître, de faire de longues prières, d'avoir tel style de vie pour se sanctifier. L'important est de désirer vivre la sainteté au quotidien, là où nous sommes. Et c'est ça que François de Sales a beaucoup montré. Il a simplifié la vie chrétienne. Avec lui, la liberté retrouve sa place au cœur du chrétien. Et la vie intérieure n'est plus compartimentée en des temps de prière, de travail, de loisirs. Comme on dit par exemple, mais là c'est mon temps de prière. Là, je travaille, là, je fais telle chose, comme si on ne pouvait pas prier partout, comme si même en travaillant, notre cœur ne pouvait pas être au Seigneur, ou bien tout simplement dire « Seigneur, je t'aime », ou carrément un acte de foi dans ce qu'on vit, un acte d'abandon. François de Sales a montré que la vie intérieure jaillit de la vie elle-même. C'est au jour le jour que nous avons à vivre la sainteté. La sainteté, c'est au quotidien et il n'y a pas plus de personnes appelées qu'un autre. Il n'y a pas des professionnels de la sainteté puis d'autres qui ne sont moins. Les mères, les pères de famille, les enfants, les célibataires, les moines, les prêtres, les religieux, religieuses, les enfants, tous sont appelés à la sainteté parce que tous sont appelés à l'amour. La sainteté, c'est une question d'accueil et d'amour. Ce n'est pas vraiment une question de perfection. On en a souvent parlé en termes de perfection, mais c'est beaucoup plus un chemin de l'imperfection, c'est-à-dire on reconnaît nos limites, on reconnaît que nous ne sommes pas parfaits. Et c'est avec ça que le Seigneur fait des saints. Je pense qu'on peut, à la suite de saint François de Sales, désirer la sainteté. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est tout simplement être honnête envers soi-même. C'est écrit dans notre âme, je dirais, c'est dans notre code génétique de notre âme, la sainteté. C'est une question de survie de notre âme. Nous sommes appelés à la sainteté. Et François de Sales a vraiment mis l'importance sur cet appel universel à la sainteté qui va beaucoup influencer aussi une sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, qui, elle, va en faire le cœur de sa petite voix. Que pour être saint, on n'a pas besoin de grandir ou de faire des grandes choses, mais de prendre l'ascenseur de l'amour qui sont les bras de Jésus. C'est Jésus lui-même qui est notre sainteté et c'est lui qui nous élève à partir de nos blessures, de nos limites, de nos pauvretés. Seigneur, ce n'est pas des gens parfaits ou des familles parfaites qu'il veut. C'est des gens qui aiment, des familles qui aiment. François de Sales, c'est ça qui nous le rend intéressant, c'est un saint très, très humain. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en cette émission consacrée aux témoins, aux saints de l'Église. Né le 21 août 1567, François de Sales est le fils d'une noble famille de Savoie. Il était destiné à une brillante carrière juridique, mais c'est la théologie qui gagnera son cœur. Cela ne l'empêchera pas de recevoir des leçons d'équitation, de danse et d'escrime. C'est un jeune homme normal qui, justement, aime l'équitation, par exemple, et qui va tout simplement avoir des cours de danse, d'escrime. À l'âge de 14 ans, il fréquente le Collège des Jésuites de Paris. Et là, il vit une grave crise spirituelle qui se manifeste par l'angoisse de la damnation. C'est une époque où, des fois, le scrupule pouvait aussi toucher certaines personnes. Et lui, il se sent... C'est une angoisse qu'il a, c'est une angoisse comme une autre, l'angoisse de la damnation, comme s'il était éloigné de Dieu. Il trouvera la paix intérieure grâce à la Vierge Marie. En 1588, il part pour Padoue, où pendant 3 ans, il étudiera le droit et la théologie. À 24 ans, il subit ses derniers examens de droit et s'inscrit au barreau de Chambéry. Donc, il a 24 ans quand il passe ses examens de droit. Puis, il a déjà quand même cette paix intérieure que Marie lui donne à travers les angoisses qu'il vit. Il se tourne vers Marie et la paix est là. C'est un homme de son temps, François de Sales. Alors, il participe à la fondation d'un mouvement humaniste à Annecy où l'on célèbre la grandeur et la beauté de l'être humain. Annecy, qui est une très belle ville d'ailleurs, qui d'après moi est l'une des plus belles villes en France, porte les marques de François de Sales un peu partout. C'est là que François de Sales va beaucoup exercer son ministère. On y reviendra plus tard. Retenons pour le moment que François de Sales est ordonné prêtre en 1593. Monseigneur de Granier l'envoie à la mission de Chablais, où le protestantisme est majoritaire. C'est un évangélisateur équilibré, François de Sales. Il lutte contre le pessimisme de Luther et de Calvin, non pas en les dénigrant, mais en montrant une image plus positive de l'être humain et en dialoguant avec les protestants. C'est un homme qui est œcuménique, hein, vraiment, qui va toujours mettre de l'avant le dialogue. Dialogue entre protestants, par exemple, et catholiques. François de Sales comprend que nous devons aimer ceux qui ne pensent pas comme nous. Avec beaucoup d'humilité et de douceur, il prêche la confiance en Dieu. Il écrit à une dame du monde que Dieu est le Dieu de joie et non un Dieu sévère. Des milliers de familles protestantes se réconcilient ainsi publiquement avec l'Église. En présentant un Dieu qui a le visage de la joie, il touche le cœur des gens. Je pense que c'est ce que Benoît XVI fait aussi en ce moment. Si vous lisez des fois ses textes, la joie revient souvent. C'est un pape qui est très sensible à la caractéristique joyeuse du christianisme. Pour lui, le christianisme est une joie. Joie de vivre le Christ, joie d'en témoigner, joie de communier à la beauté du Christ ressuscité. François de Sales, c'est un peu ça aussi. Il montre que le Dieu est le Dieu de joie. Et c'est pour ça que ce n'est pas vraiment un Dieu sévère qu'il va mettre de l'avant, mais vraiment le Dieu de douceur. Et c'est à travers cette douceur, à travers cet accueil, qu'il va toucher le cœur de beaucoup de familles protestantes qui vont se réconcilier avec l'Église. Son évêque le rappelle pour une visite à Rome auprès du pape Clément VIII. Gravement malade, François de Sales part quelques mois plus tard pour subir l'examen qui fera de lui un évêque. Bon, il subit un examen pas parce qu'il est gravement malade, mais c'est qu'avant d'être évêque, on essayait de voir la qualité du candidat. Hein. C'est pensé comme un examen. Il est nommé coadjuteur de l'évêque de Genève en 1599. Trois ans plus tard, en 1602, il lui succède. Ne pouvant résider à Genève, qui est alors appelée à l'époque la Rome des Calvinistes, il s'installe à Annecy, cette superbe ville de Haute-Savoie, traversée de canaux dont je vous parlais tout à l'heure, qui garde intacte la présence de François de Sales et de celle qui deviendra très importante dans sa vie, Sainte Jeanne de Chantal, qu'il rencontre en 1604. Il fondera alors en 1610 l'Ordre des Visitandines, communauté de femmes cloîtrées où la douceur et l'équilibre traduisent bien l'esprit du fondateur. Restez avec nous, nous verrons François de Sales, l'homme de prière, l'esprit de la prière.
Thank you.
Ici Jacques Gauthier, nous continuons notre émission sur François de Sales, un saint très humain. Nous en avons parlé tout à l'heure comme l'homme de douceur. Maintenant, nous voyons l'homme de prière. Nous savons que c'est à Annecy qu'il va s'installer, dans cette superbe ville de Haute-Savoie, et qu'il va rencontrer sainte Jeanne de Chantal. Il va fonder avec elle, en 1610, l'Ordre des Visitandines, une communauté de femmes cloîtrées où la douceur et l'équilibre traduisent bien l'esprit du fondateur. C'est intéressant de noter ici, et on voit ça dans l'histoire des saints, c'est souvent des couples, c'est par couple. François et Claire d'Assise, Vincent de Paul, Louise de Mauriac, notre François de Sales et puis Jeanne de Chantal. Et on pourrait donner plein d'exemples. Comment les saints, souvent, il y a des femmes près d'eux qui, véritablement, les aident dans leur mission, comme il y a de très grandes saintes aussi, où il y a des femmes pas loin. On pense aussi à Saint Scolastique avec la sœur de Saint Benoît. Ils ont eu des entretiens ensemble. On pourrait en donner plusieurs exemples. Il s'agit d'être attentif et de voir que dans la vie d'un saint ou d'une sainte, il y a un homme ou une femme qui sont là, très près d'eux. Comme Marguerite Marie, par exemple, c'est le saint Claude Colombière, qui est un jésuite, son directeur spirituel. Jean de la Croix, par exemple, ne peut pas se comprendre vraiment sans Thérèse d'Avila. Alors, vous comprenez, c'est très important de sentir la dimension masculine et féminine chez les saints, des saints pleinement humains qui, dans l'amour du Christ, on les retrouve des fois comme ça en couple. François de Sales est en lien avec les grands spirituels de son temps. On parlait justement de Thérèse d'Avila. Il soutient la réforme des Carmels, justement, de sainte Thérèse d'Avila et la fondation de l'oratoire par saint Philippe Néri. L'oratoire qui est un ordre pour les prêtres et fondé par Philippe de Néri et qui, justement, va être soutenu par François de Sales. François de Sales publie un livre dont les propos sont nouveaux à son époque. « Introduction à la vie dévote ». Le titre peut paraître un peu vieillot, mais je vous le dis que le contenu, il y a des perles là-dedans. Son expérience d'accompagnateur spirituel lui apprend que les voies de la sainteté sont ouvertes à tous et que l'amour de Dieu embellit toute âme. C'est ce qu'il montre dans l'introduction à la vie dévote. Un livre, un traité vraiment spirituel où il montre que tous peuvent accéder à la sainteté, que l'amour de Dieu embellit toute personne. François de Sales sort la sainteté des cloîtres et la lance sur les sentiers du monde. C'est ça qui est nouveau, lui. Tout peut véritablement être des lieux où se vit la sainteté. À son époque, par exemple, la boutique du cordonnier, la maison du bourgeois, la caserne du soldat peuvent être des lieux où se vit la sainteté, c'est-à-dire la joie de servir Dieu, l'accomplissement de son devoir d'État, l'union de sa volonté à celle de Dieu. Ce n'est plus seulement l'apanage des moines, des cloîtres. François de Sales sort la sainteté des cloîtres. Et c'est drôlement important ce qu'il fait là, lui. Il écrit au premier chapitre de son livre, « Introduction à la vie dévote », « La dévotion n'est autre chose qu'une agilité et vivacité spirituelle par le moyen de laquelle la charité fait ses actions en nous. » Donc, la dévotion, pour lui, c'est une agilité, une vivacité spirituelle par le moyen de laquelle l'amour, Dieu, en fin de compte, fait ses actions en nous. Ce livre traite de l'union à Dieu et du moyen par excellence pour y parvenir. L'introduction à la vie dévote traite justement de l'union à Dieu. Et le moyen pour y parvenir, c'est pas compliqué, c'est la prière. La prière est surtout l'oraison. L'oraison qui est ce cœur à cœur amoureux avec Dieu. Cette attention amoureuse, silencieuse. François de Sales insiste sur un authentique esprit de prière plus que sur des exercices de piété. Il conseille, par exemple, de faire oraison une heure par jour, de préférence le matin. Parce qu'il écrit, « Parce que vous aurez votre esprit moins embarrassé et plus frais après le repos de la nuit. » Eh bien, moi, je peux vous le dire, j'en témoigne, ça fait plusieurs années que, justement, le matin, je prends un temps pour faire oraison. Des fois, ce n'est pas tout à fait une heure, ça peut être trois quarts d'heure, mais c'est jamais vraiment en bas de trois quarts d'heure. C'est jamais vraiment plus qu'une heure. Mais le matin, je trouve que c'est le bon temps pour moi parce que j'ai l'esprit plus frais, je me lève un peu plus tôt aussi si j'ai quelque chose à faire. Mais jamais je ne manque ce temps-là. Ça transforme ma vie et c'est central dans mon union au Christ. Comment vivre la présence de Dieu au quotidien si je ne prends pas un temps fort où je le laisse naître en moi? Parce que dans l'oraison, il s'agit de laisser Dieu exister en soi, de le laisser naître en soi. Je développe beaucoup ce thème-là dans un livre sur la prière que j'ai écrit justement, « Prier, pourquoi et comment ?» Parce que c'est beau, c'est bien beau de savoir l'importance de la prière et de l'oraison, mais comment faire oraison, comment prier? Et François de Sales, justement, nous indique ici que l'important, c'est le matin, parce qu'on le sait qu'après, notre esprit sera moins embarrassé et plus frais après le repos de la nuit. Donc, pour saint François de Sales, il s'agit de se tenir en présence de Dieu. Parce que la prière, c'est la présence de Dieu. C'est être présent à la présence de Dieu. Se tenir en présence de Dieu et de prolonger la prière en continuant le dialogue avec Dieu dans la journée. Si nous prenons un temps fort de silence, de prière intérieure le matin, nous avons beaucoup plus de chances durant la journée de continuer ce dialogue-là. La prière, c'est un exercice. On apprend à prier en priant. On aura beau écrire tous les livres sur la prière et faire les plus belles émissions de radio, la prière, c'est un acte. C'est à vous à prier. La prière commence quand tu pries. Puis des fois, quand tu as l'impression de ne pas prier, c'est là que tu commences vraiment à prier. Mais l'important, c'est de commencer. C'est ça qui est important. Et François de Sales, dans son livre « Introduction à la vie dévote », va montrer justement, de se tenir en présence de Dieu. Et dans les moments de sécheresse, il nous en arrive toujours. C'est pour ça que très peu, des fois, sont fidèles à l'oraison, parce que c'est difficile, on a l'impression de perdre notre temps, Dieu ne nous écoute pas, on est loin de Dieu, on n'a pas le temps, on trouve que c'est du temps perdu. Mais c'est justement là que la vraie prière commence, c'est quand tu penses que tu la perds. Et à ce moment-là, tu fais le choix de continuer, c'est une question d'amour. Et le plus important dans la prière, c'est la persévérance. L'important de la prière, c'est de tenir. C'est ça qui est important. C'est de tenir. Donc, François de Sales nous dit que dans les moments de sécheresse qu'on va vivre, si on prend la prière au sérieux, bien là, il conseille de réciter lentement un pater ou un chapelet. Et c'est ce que Thérèse Lisieux faisait. Le chapelet, pour elle, c'est sûr que c'était très, très difficile. Elle disait, c'est un instrument de pénitence. Je trouve ça difficile de dire ça. Mais dans son oraison, elle ne récitait pas le chapelet. Mais elle aimait beaucoup Marie. Elle le disait durant la journée. Mais pour elle, elle était beaucoup plus contemplative. Et la prière, pour elle, c'était un regard d'amour vers Dieu, dans la simplicité du cœur. Mais quand elle était dans un état de sécheresse, elle écrit dans son histoire d'une âme, elle dit « Quand je sens qu'il n'y a plus rien qui va, que je tourne en rond, puis que je suis plein de distractions, puis que je suis dans la sécheresse, je récite lentement un Notre Père. » Et des fois, elle dit « J'ai même pas le temps de le terminer. » Parce que juste dire « Notre Père », bien, tu peux faire une heure là-dessus. Puis tu peux faire une saison, tu peux faire une année et tu peux faire une vie en disant « Notre Père ». C'est ce que François de Sales nous montre. Donc, il consacre un chapitre entier de ce livre à la douceur envers soi-même. Et François de Sales montre que l'édifice spirituel se bâtit sur cette douceur, sans oublier l'humilité qui est la connaissance de notre misère et la vérité que Dieu est miséricorde. Alors, nous verrons un peu plus tard l'importance d'un autre chef-d'œuvre de spiritualité que François de Sales a écrit, c'est le traité de l'amour de Dieu. Vous êtes toujours à Radio Mille-Marie avec Jacques Gauthier pour cette émission consacrée à Saint-François de Sales dans cette série que nous avons la joie de faire ensemble sur les saints, ces grands témoins de l'Église. François de Sales, dans ses écrits, montre que l'abandon en Dieu et la confiance en son amour sont, je dirais, les caractéristiques centrales de ce qu'on a appelé l'école française de spiritualité. L'école française de spiritualité, c'est une spiritualité, en fin de compte, où le cardinal Bérulle, M. de Haulier, Saint Jean Eudes, Saint Vincent de Paul, Saint François de Sales, tous ces saints-là font partie de cette école, cette sorte de spiritualité française où l'humanité de Jésus est mise de l'avant. Il y a la spiritualité du Carmel, il y a la spiritualité des Jésuites, mais la spiritualité de l'école française, c'est beaucoup axé sur l'amour, la douceur, l'humilité, l'humanité de Jésus et surtout l'enfance spirituelle. Et celle qui va mettre, le plus beau fruit, je dirais, de l'école française, qui va amener l'esprit d'enfance à son plein épanouissement, c'est bien sûr la petite Thérèse de Lisieux, que nous verrons une autre fois. On ne peut pas tout voir en même temps. Donc, restons encore avec notre François de Sales, qui va rédiger un chef-d'œuvre de spiritualité, le Traité de l'amour de Dieu. De 1609 à 1616, François de Sales va écrire ce chef-d'œuvre-là. Ce livre tire sa cohésion du lien intime qui existe entre la bonté de Dieu et la liberté humaine. Dieu est bon, Dieu est amour. C'est la première encyclique de Benoît XVI, une encyclique lumineuse d'ailleurs. Dieu est amour, mais il est tellement amour que nous sommes libres de répondre à cet amour. La liberté humaine est un élément central dans le christianisme. Dieu ne force personne, mais cette liberté-là, elle est aimantée par l'amour de Dieu. Notre liberté, elle est vraiment libérée, elle est pleinement humaine lorsque nous nous donnons au Christ, qui est l'homme par excellence, l'homme libre par excellence, le maître du désir, comme disait Françoise Dolto. François de Sales écrit dans son traité de l'amour de Dieu, « Bien que ce soit un don de Dieu d'être à Dieu, c'est toujours un don que Dieu ne refuse jamais à personne, mais l'offre à tous pour le donner à ceux qui consentiront à le recevoir. » Vous voyez, c'est très beau, ça. Comme il y a aussi, je pense que c'est Saint Jean Climac, un auteur des premiers temps de l'Église, qui disait « Dieu ne refuse jamais le don de l'oraison à celui qui le demande. » On peut dire « Dieu ne refuse jamais le don de la prière à celui qui prie. » Alors ici, bien que ce soit un don de Dieu d'être à Dieu, c'est toujours un don que Dieu ne refuse jamais à personne, mais il l'offre à tous pour le donner à ceux qui consentiront à le recevoir. Mais il s'agit de consentir à le recevoir. Je dirais de consentir au désir de Dieu. La vie chrétienne, c'est d'entrer dans le désir de Dieu. C'est de s'ouvrir à son vouloir d'amour sur nous. Il nous veut libres, heureux, pleinement épanouis. C'est ça la sainteté. Il nous veut saints parce qu'il nous veut pleinement humains. Et c'est ce qui fait la beauté de saint François de Sales, c'est parce qu'il est un saint pleinement humain. Plus tu es humain, plus tu es saint. Et plus tu es saint, plus tu es humain. François de Sales, dans son traité de l'amour de Dieu, va parler de la différence des amours, va parler de l'oraison en tant que théologie mystique, du désir que Dieu a d'être aimé. Dieu a soif d'être aimé. J'en ai parlé beaucoup de ce thème-là dans un livre que j'ai écrit justement, sur les liens entre Mère Teresa et la petite Thérèse de Lisieux. Vous savez que Mère Teresa a pris son nom à cause de la petite Thérèse de Lisieux. Et le mot qui revient souvent dans les écrits de Mère Teresa, comme de la petite Thérèse, c'est « j'ai soif ». Ce n'est pas leur soif de Jésus, mais Jésus qui a soif de nous. Jésus qui a soif de toi. Jésus qui a soif de ta liberté. Alors, Dieu désire d'être aimé. C'est très beau, ça. Le cœur divin est amoureux de notre amour, écrivait saint François de Sales. Le cœur divin est amoureux de notre amour. Le cœur blessé du Christ en croix a soif de nous. Il prend toutes nos soifs en lui. C'est comme il disait à la Samaritaine, « Donne-moi à boire, j'ai soif. » C'est le cri du Christ. Il a soif de quoi, disait Thérèse, mais il a soif d'être aimé, il a soif de toi, il a soif de moi. Donc, cette soif de Jésus, nous la retrouvons aussi dans le traité de l'amour de Dieu de François de Sales. Il meurt à Lyon le 28 décembre 1622 à l'âge de 55 ans. Jésus est le dernier mot qu'il prononce. Il est inhumé le 24 janvier suivant à Annecy où il repose. L'Église retient cette date dans sa liturgie. Le 24 janvier, parce que c'est là qu'il est né au ciel. Canonisé en 1665, il sera déclaré docteur de l'Église en 1877 par Pie IX, ce qui est très rare, il y a seulement 33 docteurs de l'Église, et François de Sales est le seul de langue française avec Thérèse de Lisieux. En 1923, Pie XI le proclame patron des journalistes, des éditeurs et des écrivains, en raison surtout du fait qu'il distribuait des feuillets imprimés exposant la foi catholique aux gens du Chablais.
Écoutons quelques extraits du Traité de l'amour de Dieu de saint François de Sales. Ce traité est fait pour aider l'âme déjà dévote à ce qu'elle se puisse avancer en son dessein. Et pour cela, il m'a été force de dire plusieurs choses un peu moins connues aux vulgaires et qui, par conséquent, sembleront plus obscures. Comme la très sainte charité produit l'amour du prochain. Comme Dieu créa l'homme à son image et semblance, aussi a-t-il ordonné un amour pour l'homme à l'image et semblance de l'amour qui est dû à sa divinité. « Tu aimeras, dit-il, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. » C'est le premier et le plus grand commandement. Or, le second est semblable à y celui. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Pourquoi aimons-nous Dieu? La cause pour laquelle on aime Dieu, dit saint Bernard, c'est Dieu même, comme s'il disait que nous aimons Dieu parce qu'il est la très souveraine et très infinie bonté. Pourquoi nous aimons-nous nous-mêmes? En charité? Certes, c'est parce que nous sommes l'image et semblance de Dieu. Et puisque tous les hommes ont cette même dignité, nous les aimons aussi comme nous-mêmes, c'est-à-dire en qualité de très saintes et vivantes images de la divinité. Car c'est en cette qualité-là, Théotime, que nous appartenons à Dieu, d'une si étroite alliance et d'une si aimable dépendance, qu'il ne fait nulle difficulté de se dire notre Père et nous nommer ses enfants. C'est en cette qualité que nous sommes capables d'être unis à sa divine essence par la jouissance de sa souveraine bonté et félicité. C'est en cette qualité que nous recevons sa grâce et que nos esprits sont associés au sien très saint, rendu par manière de dire participant de sa divine nature, comme dit saint Pierre. Et c'est donc ainsi que la même charité qui produit les actes de l'amour de Dieu produit en même temps ceux de l'amour du prochain. Et tout ainsi que Jacob vit qu'une même échelle touchait le ciel et la terre, servant également aux anges pour descendre comme pour monter. Nous savons aussi qu'une même direction s'étend à chérir Dieu et aimer le prochain, nous relevant à l'union de notre esprit avec Dieu et nous ramenant à l'amoureuse société des prochains. En sorte toutefois que nous aimons le prochain en tant qu'il est à l'image et semblance de Dieu, créé pour communiquer avec la divine bonté, participer à sa grâce et jouir de sa gloire. Aimer le prochain par charité, c'est aimer Dieu en l'homme ou l'homme en Dieu. C'est chérir Dieu seul pour l'amour de lui-même et la créature pour l'amour d'y celui. Le jeune Tobie, accompagné de l'ange Raphaël, ayant abordé Raguel, son parent, auquel néanmoins il était inconnu, Raguel ne l'eut pas plutôt regardé, dit la Sainte Écriture, que se retournant de vers Anne, sa femme, « Tenez, dit-il, voyez combien ce jeune homme est semblable à mon cousin. » Et ayant dit cela, il les interrogea, « D'où êtes-vous, jeunes gens, mes chers frères ?» À quoi ils répondirent, « Nous sommes de la tribu de Nephtali, de la captivité de Ninive. » Et il leur dit, « Connaissez-vous Tobie, mon frère ?»« Oui, nous le connaissons, dirent-ils. » Et Raguel s'étant mis à dire beaucoup de bien de lui, l'ange lui dit, « Tobie, duquel vous vous enquérez, il est propre père de celui-ci. » Lors, Raguel s'avança et le baisant avec beaucoup de larmes et pleurant sur le col, dit celui, « Bénédiction sur toi, mon enfant, dit-il, car tu es fils d'un bon et très bon personnage. » Et la bonne dame Anne, femme de Raguel, avec Sarah, sa fille, se mirent aussi à pleurer de tendreté d'amour. Ne remarquez-vous pas que Raguel, sans connaître le petit Tobie, l'embrasse, le caresse, le baise, pleure d'amour sur lui? D'où provient cet amour? Sinon de celui qu'il portait au vieil Tobie, le père, que cet enfant ressemblait si fort. « Béni sois-tu, dit-il. Mais pourquoi? Non point, certes, parce que tu es un bon jeune homme, car cela je ne le sais pas encore. Et, vrai Dieu, Théotime, quand nous voyons un prochain créé à l'image et semblance de Dieu, ne devrions-nous pas dire les uns aux autres, « Tenez, voyez cette créature, comme elle ressemble au Créateur. » Ne devrions-nous pas nous jeter sur son visage, la caresser et pleurer d'amour pour elle? Ne devrions-nous pas lui donner mille et mille bénédictions? Et quoi donc, pour l'amour d'elle? Non, certes, car nous ne savons pas si elle est digne d'amour ou de haine en elle-même. Et pourquoi donc, ô Théotime? Pour l'amour de Dieu, qui l'a formée à son image et semblance, et par conséquent rendue capable de participer à sa bonté, en la grâce et en la gloire. Pour l'amour de Dieu, dis-je, de qui elle est, à qui elle est, et par qui elle est, en qui elle est, pour qui elle est, et qu'elle lui ressemble d'une façon toute particulière. Et c'est pourquoi non seulement le divin amour commande maintes fois l'amour du prochain, mais il le produit et répand lui-même dans le cœur humain, comme sa ressemblance et son image. Puisque tout ainsi que l'homme est l'image de Dieu, de même l'amour sacré de l'homme envers l'homme est la vraie image de l'amour céleste de l'homme envers Dieu. Mais ce discours de l'amour du prochain requiert un traité à part, que je supplie le souverain amant des hommes, vouloir inspirer à quelqu'un de ses plus excellents serviteurs, puisque le comble de l'amour de la divine bonté du Père céleste consiste en la perfection de l'amour de nos frères et compagnons.
Dieu, toi mon Dieu.
François de Sales fut un saint très humain, un homme de douceur qui a vécu la prière, qui a vécu l'oraison, l'amour de Dieu. Terminons par une courte prière, parce qu'on peut aussi prier les saints, les évoquer. Ils sont près de nous, ils nous accompagnent sur cette route où nous marchons dans la sainteté. La manne au festin de Dieu, tu la répands dans la douceur en te faisant tout à tous. Pour toi, mystique et sainteté, fleurissent à la cour des princes et chez le monde ordinaire. Aide-nous, François de Sales, à aimer jusqu'au bout ce Dieu qui désire se donner. Aide-nous à aimer le prochain créé à l'image de Dieu. Amen. Vous étiez en compagnie de Jacques Gauthier pour cette émission sur les saints, ces fous admirables. Nous avons vu François de Sales, un saint très humain. Ce texte a été tiré d'un recueil d'un florilège sur les saints que j'ai écrit, Les saints, ces fous admirables. Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour une autre émission sur une grande figure de la sainteté.